Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 2014 chez Odile Jacob. Le Code de la conscience est un essai de neurosciences cognitives dans lequel Stanislas Dehaene examine une question longtemps réservée à la philosophie par quel mécanisme cérébraux une information devient-elle consciente. Professeur au Collège de France et spécialiste de la neuroimagerie cognitive. Il rassemble des résultats issus de la psychologie expérimentale, de la mesure électrophysiologique et de l'imagerie cérébrale. Son propos ne consiste pas à réduire toute vie mentale à un seul signal biologique, mais à formuler un modèle testable de la différence entre traitement inconscient et accès conscient. Le livre aborde ainsi les perceptions fugitives, les illusions, le rôle de l'attention, la mémoire, le contrôle volontaire et la diffusion des informations dans le cerveau. Il examine aussi les usages possibles de ces connaissances, évaluer des patients non communicants, étudier le nourrisson ou animal, et interroger les conditions minimales de conscience chez une machine. Accessible sans renoncer à la précision scientifique, ouvrage relie données de laboratoire, débats conceptuels et enjeux éthiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, accès conscient et traitement inconscient ne relèvent pas du même niveau de traitement. Un axe central du livre consiste à distinguer ce que le cerveau traite sans que nous le sachions de ce qui accède à expérience consciente. Dehaene rappelle que de nombreuses opérations perceptives, linguistiques ou motrices peuvent être amorcées par des stimuli trop brefs, masqués ou peu pertinents pour être apportés. Le cerveau ne demeure donc pas inactif en absence de ressenti conscient. Toutefois, un traitement local et rapide ne suffit pas pour qu'une information puisse être décrite, conservée, comparée à un but ou mobilisée dans un raisonnement. La conscience correspond plutôt à un changement de régime. Une représentation devient disponible pour plusieurs systèmes qui peuvent la maintenir et la transformer. Cette distinction évite deux confusions fréquentes. La première consiste à croire que toute activité cérébrale équivaut à une expérience subjective. La seconde revient à imaginer que l'inconscient est un simple vide mental. Dans le cadre présenté, les traitements inconscients sont réels, efficaces et parfois sophistiqués, mais ils restent limités par leur faible disponibilité globale. Les expériences de masquage et de seuil perceptif prennent alors une valeur décisive, elles permettent de comparer des conditions très proches où un même stimulus est ou non rapporté. Cette méthode rend le problème de la conscience abordable empiriquement, sans prétendre épuiser toutes ses dimensions philosophiques. Deuxièmement, le modèle de espace de travail neuronal global explique la diffusion de informations conscientes pour rendre compte de accès conscient. Dehaene développe le modèle de espace de travail neuronal global élaboré avec Jean-Pierre Changeux. Selon cette proposition, le cerveau comprend de nombreux systèmes spécialisés qui analysent séparément les formes, les sons, les mots, les nombres ou les actions. Une grande partie de leur activité demeure locale et non consciente, lorsqu'une information atteint une intensité suffisante, notamment grâce à l'attention et à la qualité du signal. Elle déclenche une activation coordonnée de réseaux largement distribués. Cette mise en relation permet sa diffusion vers des régions impliquées dans la mémoire, la décision, le langage et le contrôle de action. Le terme global ne désigne donc pas une zone unique où la conscience résiderait, mais la capacité de partager une information entre plusieurs opérations cérébrales. Le livre insiste sur le caractère dynamique de ce passage. Une perception consciente peut être stabilisée, rapportée et utilisée pour planifier, tandis qu'une perception non consciente reste plus fragile et plus étroitement liée à son traitement initial. Ce cadre explique aussi pourquoi la conscience paraît limiter le cerveau, peut effectuer de multiples calculs parallèles, mais ne peut rendre simultanément disponible qu'un nombre restreint de contenus. La théorie ne remplace pas la description de chaque fonction cognitive. Elle fournit une architecture reliant spécialisation locale, communication à grande échelle et flexibilité de la pensée. Troisièmement, les signatures cérébrales de la conscience sont étudiées par des comparaisons expérimentales. Le livre accorde une place importante aux outils qui rendent visible la dynamique cérébrale électroencéphalographie, magnétoencéphalographie, imagerie fonctionnelle et dans certains contextes cliniques ou de recherche, enregistrement intracrânien. Leur intérêt est de relier le rapport subjectif de perception à des changements mesurables dans l'activité neuronale. Dehaene souligne néanmoins que la recherche ne peut se contenter de repérer une région active. Toute perception entraîne des traitements initiaux, y compris lorsqu'elle ne devient pas consciente. Il faut donc comparer systématiquement les réponses associées à un stimulus perçu avec celles associées à un stimulus équivalent non perçu. Les résultats décrits soutiennent l'idée qu'un accès conscient se manifeste par une activation plus tardive, plus intense et plus étendue que le traitement précoce du stimulus. Cette approche éclaire aussi les limites des marqueurs cérébraux. Un signal mesuré peut refléter attention, préparation de la réponse, mémoire ou décision, et non la conscience prise isolément. La rigueur expérimentale demande alors de contrôler ces facteurs et de distinguer corrélation, prédiction et mécanisme. Le mérite de l'ouvrage est de présenter la conscience comme un objet scientifique, difficile, mais accessible. Les expériences ne lisent pas directement une intériorité. Elles testent des hypothèses précises sur les conditions neurales qui permettent à une information de devenir disponible pour le sujet. Quatrièmement, attention. Mémoire et métacognition déterminent ce que le sujet peut rapporter de son expérience. DN ne traite pas la conscience comme un simple éclairage passif posé sur les perceptions. Elle est liée à des fonctions qui organisent actions et permettent au sujet de surveiller ses propres états mentaux. Attention sélectionne certaines informations parmi une masse de signaux concurrents et augmente leurs chances de franchir le seuil de accès conscient. Elle ne se confond pas totalement avec la conscience, car une orientation attentionnelle peut agir sans rapport conscient. Mais elle constitue souvent une condition importante de la stabilisation du contenu perçu. La mémoire de travail joue ensuite un rôle essentiel, elle maintient temporairement une information afin de la comparer, de la combiner ou de l'utiliser dans une tâche. Le livre relie cette disponibilité à la capacité de verbaliser un contenu, de modifier une stratégie et de planifier une réponse. Il aborde également la métacognition, soit la faculté de juger ce que nous savons, ce que nous percevons ou le degré de confiance que nous pouvons accorder à une décision. Cette dimension explique que la conscience comporte une forme de retour sur elle-même sans exiger une entité séparée du cerveau. Les illusions perceptives et les erreurs de jugement illustrent enfin une leçon importante: avoir conscience ne garantit pas une représentation exacte du monde. La conscience fournit un espace de traitement flexible, mais celui-ci reste construit, sélectif et soumis aux contraintes des mécanismes cérébraux. En dernier lieu, du diagnostic du coma à la machine consciente, les applications imposent une prudence éthique. Les conséquences pratiques du programme de recherche constituent une dimension majeure de l'ouvrage. Chez des patients incapables de répondre par la parole ou le mouvement, les mesures cérébrales peuvent aider à rechercher des indices de traitement préservé et, dans certains cas, de conscience résiduelle. DN présente cet enjeu avec une attention particulière à la difficulté de l'interprétation. Absence de réponse comportementale ne démontre pas nécessairement absence complète de vie mentale, tandis qu'une activité cérébrale isolée ne suffit pas toujours à établir une expérience consciente. Les méthodes doivent donc compléter, et non remplacer mécaniquement, évaluation clinique. Le même raisonnement ouvre des pistes pour études du nourrisson et de l'animal, chez lesquels le rapport verbal fait défaut. Enfin, le livre examine la possibilité de machines dotées de certaines propriétés fonctionnelles associées à la conscience. La question pertinente devient moins celle de savoir si une machine imite superficiellement une conversation que celle de déterminer si elle possède une architecture capable de sélectionner, maintenir, diffuser et évaluer des informations à échelle globale. Cette réflexion ne tranche pas définitivement le statut moral de système artificiel futur. Elle oblige cependant à expliciter les critères employés et à distinguer performance, autonomie cognitive et expérience subjective. En reliant neurosciences, médecine et intelligence artificielle, DN montre que définir la conscience engage aussi des décisions éthiques et sociales. En conclusion, le code de la conscience convient particulièrement aux lecteurs désireux de comprendre comment les neurosciences cognitives transforment une question classique sur esprit en série de problèmes expérimentaux. Il intéressera les étudiants en psychologie, philosophie, médecine ou intelligence artificielle, mais aussi un public général prêt à suivre des raisonnements fondés sur des protocoles de laboratoire. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir des distinctions solides, activité cérébrale et expérience consciente, traitement local et diffusion globale, attention et conscience, mesure objective et rapport subjectif. Ces distinctions permettent de mieux interpréter les annonces souvent simplificatrices sur la lecture des pensées, les tests de conscience ou les capacités des machines. Sur le plan pratique, le livre aide aussi à saisir pourquoi les outils de neuroimagerie peuvent éclairer le diagnostic de patients non communicants sans fournir à eux seuls une réponse définitive. Par rapport à des ouvrages de vulgarisation qui présentent la conscience surtout comme une énigme philosophique ou une succession de récits cliniques, celui de DAN se distingue par la cohérence de son cadre théorique. Il met en relation modèle computationnel, expérience de perception consciente et signature neurale, tout en reconnaissant les difficultés de l'interprétation. Sa force réside moins dans une promesse de résoudre définitivement le problème subjectif que dans une démonstration méthodique, une part substantielle de la conscience peut-être étudiée en analysant les conditions cérébrales qui rendent une information publiquement disponible au sein du système cognitif. Si vous souhaitez soutenir Stanislas DN, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.